7h, 9h, la matinale de Nova. Avec Marie Bonisseau et Queenie Tassel pour que tu rêves encore.
Nova.
Quand j'étais petit, je faisais, tu sais, t'as toujours ce genre de rêve que t'as l'impression que tu le refais souvent. Et moi, j'avais un rêve où j'avais l'impression que j'étais dans une guerre, mais spatiale, en fait. C'était très minutieux, avec des petits bip-bip, des salles comme un peu des cockpits. J'aimais bien les cockpits aussi à cette époque-là de ma vie. Et je voyais aussi ce vaisseau incroyable. Et j'ai fait ce rêve-là une cinquantaine de fois.
Nova ?
J'adorais les avions. J'ai toujours rêvé de faire ce métier-là. Et on m'a tout de suite dit, ce sera impossible pour toi, Théo. Tu as des trop gros problèmes de vue.
Pour que tu rêves encore.
Oh, un petit myope empêché de réaliser son rêve. C'est les plus grands rêveurs, les gens qui voient flou, j'ai remarqué. Ce mercredi 15 janvier, on ne corrigera aucune vue. C'est décidé. Ouvrez juste les yeux. Mais doucement, parce qu'on est là jusqu'à 9h, on a le temps. Bonjour Queenie.
Salut, ça va?
Vous avez un œil sur deux ouvert.
Oui, mais parce qu'on m'appelle Faucon 2000. Je vois très bien qu'avec un seul œil.
C'est perçant. C'est une émission qu'on vous propose et qui va commencer par quelque chose de très poli. On va dire bonjour aux gens.
Bonjour.
Bonjour à toutes, à tous et à tous. 67 millions 64 000 bonjour très exactement ce matin à chacun des Français et Françaises. J'ai les chiffres, hein. C'est l'INSEE qui a présenté les résultats du recensement 2019 hier. Alors dans le rapport, ça dit aussi qu'il y a 1,87 enfants par femme.
Non.
Bonjour donc aux enfants 1,87. Aujourd'hui, je ne vous l'apprends pas, nous sommes mercredi. On a donc beaucoup d'enfants 1,87 qui ont poterie, piscine, batterie, foot, barre parallèle, toutes ces activités périscolaires du mercredi qui leur apprennent à développer leur créativité et ou à arriver dernier dans des compétitions. Alors bon courage les enfants, moi aussi hein, on ne juge pas, j'étais très nulle en ping-pong.
Ça, c'est sûr.
Je perdais toutes mes montantes descendantes et je m'en suis jamais remise. La preuve, j'en rêve encore. Alors pour ceux qui ont tennis, petite exception, bonne nouvelle, vous allez peut-être pouvoir esquiver. La compétition risque d'être annulée. Je parle de l'Open d'Australie à Melbourne, grande compétition de tennis, qui doit commencer lundi prochain. En ce moment, c'est les matchs de qualification et ça se passe dans le brouillard. Les terrains sont recouverts de fumée toxique à cause des feux géants dans la région. Allez voir, il y a des photos dans la presse. On voit des joueurs de tennis munis de masques anti-fumée.
Okay.
Il y en a d'autres qui toussent pendant leur match et il y a un ramasseur de balles qui aurait fait un malaise. Voilà, c'est pas très pratique. D'ailleurs, beaucoup réclament qu'on annule cet Open d'Australie, mais comme ça ne s'est jamais fait depuis la Seconde Guerre mondiale, les organisateurs, au nom de la beauté du sport, hésitent encore à prendre cette difficile décision. Ils espèrent un orage pour aujourd'hui, pour calmer un petit peu la fumée. Alors on précise que pendant ce temps-là, les habitants de Melbourne, eux, ont pour ordre de rester chez eux, fenêtres fermées.
Et bah, go les tennisman.
Voilà, quant aux koalas, qui eux n'ont pas de fenêtres, mais qui subissent aussi très fort la fumée, la réponse vient de tomber, c'est non pour leur transfert en Nouvelle-Zélande. Il y a une pétition qui réclamait qu'on envoie tous les koalas là-bas, parce qu'il y a des eucalyptus aussi en Nouvelle-Zélande, mais le gouvernement néo-zélandais vient de décliner, je cite, il est mieux que les koalas restent dans leur habitat naturel australien.
Ah oui.
Voilà, donc une forêt en feu, donc, avec des balles de tennis qui fondent et des petits ramasseurs qui tombent dans les pommes. À bien y réfléchir, c'était pas si horrible, moi, mes mercredis ping-pong dans le Val d'Oise. Je perdais, mais je ne brûlais pas.
Nova.
Il est 7h25 sur Nova. Pour l'instant, pas d'activité, vous vous réveillez tranquillement. Dans un instant, on va vous servir un journal signé Thierry Paret. Mais d'abord, notre séquence Occitanie. Nous sommes au mois de janvier, ça vous le savez. Mais l'Occitanie ne connaît pas le concept de Dry January. Les chiffres sont tombés hier. C'est la région de France qui a le plus haut taux de consommation d'alcool quotidienne. 12,6% de consommation quotidienne. Donc ils sont au-dessus de la moyenne nationale qui est à 10%. C'est un record occitan qui n'est pas passé inaperçu à vos yeux, Queenie.
Non.
Vous voulez donc dédicacer un morceau de musique aux Occitans ce matin.
Exactement, un morceau qui va leur faire plaisir parce qu'il est imbibé d'alcool.
Yes.
C'est Gin and Juice de Snoop Dogg. Alors, comment on fabrique un morceau comme ça?
J'ai la recette magique.
Alors déjà, il faut une instru samplée. Il y a 4 samples dans le morceau de Snoop Dogg, dont la basse un peu laid-back de George McRae.
Ça, c'est un un morceau dont l'original on le passe aussi sur Nova. Pas très beau
tout
ce morceau.
Il s'appelle I Get Lifted. Il est donc samplé en 93 par Snoop. Il est ralenti et agrémenté de synthés un peu dégoulinants et typiques de la G-Funk, G-Funk ou Gangsta Funk courant venu tout droit de la West Coast, dont Dr. Dre et Snoop produisent de la musique à 22 ans pour Snoop. Tout en fumant des ouanges au soleil.
Bien
parce
sûr.
Que oui, la G-Funk célèbre le chill, les meufs, la teuf et donc l'alcool.
C'est vraiment l'Occitanie en
exactement.
Fait la G-Funk.
Et c'est le dernier ingrédient magique de ce morceau de Snoop. Le titre c'est donc Gin and Juice, un cocktail que Snoop nous recommande de siroter au volant,
il
le dit dans le refrain. Moi je vous déconseille de le faire. Voici donc Gin and Juice, un morceau à écouter avec une bonne dose d'alcool nécessaire pour faire kiffer tous les Occitans qui nous écoutent et tous les gens qui aiment le gin.
With so much drama in the LBC, it's kind of hard being Snoop D-O-double-G, but I somehow, some way, keep coming up with funky ass shit like every single day. May I kick a little something for the G's and make a few ends as I breeze through. 2 a.m. and the party still jumping cause my mama ain't home. I got bitches in the living room getting it on and they ain't leaving till 6 a.m. So what you want to do? Shit, I got a pocket full of rubbers and my homeboys do too. So turn off the lights and close the doors. But for what?
We don't love them hoes.
Yeah. So we gon' smoke an ounce to this. G's up, hoes down. Why you motherfuckers bounce to this? Lay back.
With my mind on my money and my money on my mind.
Rolling down the street, smoking in and out, sipping on gin and juice.
Lay back.
With my mind on my money and my
now
money on my mind.
Back. I got me some Seagram's gin. Everybody got their cups, but they ain't chipped in. Now this type of shit happens all the time. You gotta get yours, but fool, I gotta get mine. Everything is fine when you're listening to the D.O.G. I got the cultivating music that be captivating he who listens to the words that I speak as I take me a drink to the middle of the street and get to mackin' to this bitch named Shady. She used to be the homeboy's lady.
Oh, that bitch.
80 degrees when I tell that bitch, please raise up off these N.U.T.s, cause you gets none of these at ease. As I mob with the dog pound, feel the breeze. B.I. Chuck Jess. Lay back.
With my mind on my money and my money on my mind.
Rolling down the street, smoking in and out, sipping on gin and juice.
Lay back.
With my mind on my money and my money on my mind.
Later on that day, my homie Dr. Dre came through with a gang of Tango Ray and a fat ass Jay of some bubonic chronic that made me choke. Shit, this ain't no joke. I had to back up off of it and sit my cup down. Tango Ray and chronic, yeah, I'm fucked up now. But it ain't no stopping, I'm still popping. Dre got some bitches from the city of Compton to serve me, not what it is.
Et pour aller voir Jabberwocky en DJ set et Kiddy Smile et Étienne de Crécy et beaucoup de gens qu'on adore, ça se passe à la soirée Allo Floride Birthday ce week-end à Paris. Et on a deux joueurs qui aimeraient gagner les places pour cette soirée. D'abord, il y a Fanny qui a appelé. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Ça va?
Oui, très bien.
Alors, vous êtes, vous avez déjà vu Kiddy Smile, vous, en
concert?
En concert ou...
Non, jamais.
D'accord. Bon, bah, c'est très bien. Alors, ouais, vous allez peut-être gagner ces places pour aller le voir. Plein d'autres très bons musiciens aussi, mais d'abord il va falloir... Ah voilà, je me disais bien, il y a une intervention de police derrière,
oui,
vous Fanny, j'espère que c'est pas pour vous.
Ah non, c'est pas pour moi.
D'accord, elle n'a rien volé. Face à vous Fanny, pour gagner les places ce matin, il y a Julien.
Bonjour.
Bonjour Julien, ça va?
Bonjour, ça va.
Vous nous appelez d'où?
De Pantin.
De Pantin. Ah bon, on n'est pas loin. Mmh. Fanny, Julien, ce matin, on va vous présenter comme tous les mercredis notre petit enfant ivre. Il s'appelle Joël et il va vous décrire une célébrité avec ses mots à lui. Vous, la chose que vous avez à faire, c'est d'essayer de le comprendre et de trouver le nom de la personne dont il parle. Est-ce que le concept est clair?
Oui.
Oui.
Ouh, Fanny, Julien, premier indice de Joël. Fanny, c'est vous qui avez la main parce que vous avez appelé en premier. C'est parti.
Ça me
monsieur, il adore manger des pommes. Je te limite si tu veux. La 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 la, j'adore les pommes, je cueille les pommes. La 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 la, et aussi la tête des bébés vaches. Burk.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Joël a un monde particulier, c'est à lui. Hein. Fanny, est-ce que vous voyez de qui il parle ?
Il aime les pommes, à part Blanche-Neige, je sais pas.
Ah, on peut tenter Blanche-Neige ?
Ouais, allez-y.
Allez, on tente.
Pas la honte ! T'as pas de cerveau ou quoi ?
Non, Fanny, wow. Non, ne le prenez pas mal, ne prenez pas mal. Julien, une autre proposition ?
Jacques Chirac.
Ah, Jacques Chirac, rien à voir avec Blanche-Neige, on tente.
Je serai le président de tous les Français.
Ah ouais.
Tous les Français.
Et ouais, il me semble que c'était... Et là, c'est plus Chirac que Blanche-Neige dans ce morceau. Ouh. Félicitations, Julien.
Merci.
Du premier coup. Ils sont polis. Entre
oui.
Eux. Vous pouvez y aller ensemble. Hein. Il y a deux places pour la soirée.
Ouais, mais non. Normalement, non.
Oh, okay. Julien, un date.
Bon, eh ben, je vous souhaite une très belle journée à tous les deux.
Et mangez des pommes.
Oui, bien sûr.
Merci.
Salut.
Au revoir.
Bisous.
Nova. Pour que tu rêves encore.
Il est 8h06, on est avec des invités un peu particuliers, puisqu'ils ont fait, eux, le tour du monde des bouffardes. C'est comme ça qu'on appelle Pipe quand on essaie d'être un peu poli. Lucas Bidot, César Marchal, bonjour.
Bonjour Marie.
Alors vous sortez une revue qui est toute nouvelle, puisque c'est le numéro 1, ça s'appelle Sphère avec un S. Vous allez de sphère en sphère, des communautés en communautés. Pour le numéro 1, donc c'est les gens qui fument la pipe.
C'est ça.
Je sais pas s'il y a le nom, un nom pour cette communauté.
Il y a un titre à la revue qui est Souffle, calme et volupté, mais sinon c'est ça, les
fumeurs
de pipe.
Voilà, ça c'est un slogan.
Ouais.
Et puis ce sera bientôt, vous allez faire un numéro sur les gens qui plongent très profond dans la mer.
C'est ça, les plongeurs.
Voilà. Et pourquoi la pipe ? Parce qu'on est bien d'accord que, vous le dites vous-même, c'est quand même un sport en voie de disparition.
Oui, un sport, oui. en fait, c'est simple, on a mis au point notre ligne édito après un certain temps.
Ouais.
Le principe, c'était d'aller voir des petites communautés de passionnés qui, j'ai envie de dire, prennent le temps, qui, par rapport à la course du monde, ralentissent.
Ah bah, la pipe, c'est vraiment ça, parce que c'est quasiment méditatif, même par rapport à une...
Mais c'est complètement méditatif, même. C'est complètement méditatif, mais dans cette communauté, t'as des passionnés. C'est vraiment incroyable à observer. Et c'est ce qu'on s'est... En fait, on s'est rendu compte de ça avec César en allant un peu sur le terrain. Les fumeurs de pipe sont absolument fous de l'objet. C'est vraiment, ça habite leur quotidien. Et les rencontrer, les photographier, c'est quelque chose d'incroyable à faire.
Ouais. Ça rentrait parfaitement dans ce principe de prendre un peu de temps sur soi, de se poser peut-être dans un fauteuil, fumer sa pipe tranquillement.
Rien que d'aller chercher le bois qui fait la pipe, il faut prendre le temps puisque c'est un bois qu'on appelle la bruyère.
Exact.
Il y a 4 pages sur la recherche de la bruyère en Italie.
C'est César justement qui est allé là-bas.
Et vous êtes allé voir alors eux c'est vraiment des bûcherons mais qui s'accrochent parce qu'en fait pour aller prendre la bruyère c'est très compliqué.
C'est très physique. Moi je suis allé voir un monsieur qui s'appelle Mimo, Romeo. Et qui est coupeur de bruyère. Donc c'est pas lui qui va arracher la bruyère dans les bois, on la livre, mais lui il la découpe ensuite. Et c'est un travail de malade aussi, où il a les mains 7 heures par jour autour d'une scie circulaire, et il commence à couper sa bruyère qui ressemble à une espèce de grosse sphère de bois, et il y passe 6 heures, 7 heures par jour à épier tous les moindres détails.
Et ensuite ce qui est hyper intéressant, c'est que les maîtres pipiers, ceux qui vont faire la pipe, ils vont s'adapter aux nœuds qu'il y a dans le bois, à chaque ligne du bois. Une belle pipe, c'est une pipe qui s'est en fait adaptée à son arbre.
Exactement, c'est ça. Les maîtres pipiers, donc ceux qui pratiquent cet artisanat plutôt depuis un certain temps, ils arrivent à suivre ce qu'on appelle les veinures du bois. Donc toutes ces lignes qui font la beauté du bois, ils arrivent à la suivre et ils créent la pipe en fonction du morceau qu'ils ont acheté.
Chaque bouffard est unique. Il y a aussi un article assez drôle sur le retour de la pipe. Pour le coup, il y a une énorme mode après le Seigneur des Anneaux. C'est tout le monde voulait la pipe de Gandalf.
Exactement. Non, mais ça, c'est pareil. C'est une histoire incroyable. Et c'est pas une blague. On a vraiment discuté avec les plus grandes boutiques de fumeurs de pipe. Il s'avère qu'après chaque rediffusion, même à la télévision, derrière, t'as une multiplication des ventes de pipes longues. Parce qu'en fait, dans le film Seigneur des Anneaux, les héros, donc Gandalf, Bilbo, le Hobbit, etc., fument que des pipes très longues, qu'on appelle des Churchwarden. Et c'est des pipes qui font en moyenne 30 cm de long.
Ouais,
et dès que le film passe à la télé, le lendemain, boum, t'as une explosion des ventes. Et ça, c'est assez incroyable.
Et c'est des pipes, vous le précisez même, c'est très technique, hein, cette revue. C'est des pipes qui sont beaucoup plus douces, du coup, parce que comme c'est très long, la fumée, c'est comme en fait des cigarettes longues, quoi. La fumée est beaucoup plus légère, mais elles sont aussi beaucoup plus compliquées à nettoyer.
Exactement, c'est ça.
Un bon fumeur de pipe, c'est d'abord quelqu'un qui s'est bien bourré sa pipe. mais c'est pas une blague. Et c'est hyper important. Ça, on nous l'a rabâché à chaque fois qu'on a rencontré les gens de la communauté. Et il s'avère que pour les pipes longues, c'est d'autant plus compliqué en plus. plus.
Il y a aussi un portrait de Popeye, évidemment, grand fumeur de pipe dans la pop culture. Il y a aussi, vous allez rencontrer les Chaps en Angleterre, qui sont des gens très élégants, c'est un peu les dandies de maintenant, qui eux aussi militent pour le retour de la pipe et le costume trois pièces. Bien, beaucoup, beaucoup d'articles, en fait. Vous avez vraiment été chercher tout ce qui se faisait dans ce domaine, pourtant assez méconnu et en train de disparaître. Le meilleur tabac est en Belgique aussi, j'ai appris.
Oui, ou l'un des meilleurs, du moins. C'est Lucas qui a fait le reportage.
Ouais, on est parti en Belgique. Bon, en fait, c'est un peu le principe du magazine, hein, c'est-à-dire qu'on va, on explore une petite communauté de niche sur 150 pages. Donc, pour le coup, à la fin, on la connaît par cœur quand on a lu le magazine.
Sphère sur donc la pipe, c'est en ce moment, vous pouvez le trouver. On va sur votre site et puis on peut le commander. Et puis le prochain numéro, donc vous irez au fond des océans. Je vous souhaite bon courage. Bon, ça va être plus compliqué de fumer la pipe.
Merci,
merci beaucoup à tous les deux.
Nova, j'ai rêvé que j'allais au taf toute nue. Ça m'allait bien. Pour que tu rêves encore.
Il est 8h14 sur Nova, nous sommes avec notre invitée et on est très honorés de recevoir Tatiana Julien, danseuse et chorégraphe. Bonjour Tatiana.
Bonjour.
La dame vient de dire qu'elle rêvait qu'elle était toute nue. Ça, on peut danser nue là, dans ce qu'on va faire?
Bah oui, tout à fait. Ouais, je pense que je vais inviter tout le monde à enlever le pantalon.
Bon, voilà, donc enlevez votre pantalon, chers auditeurs. Alors Tatiana, vous allez nous faire une danse de soulèvement ce matin en direct sur Nova. C'est le soulèvement, c'est le titre de votre solo de danse avec lequel vous tournez en ce moment. C'est intense, hein. On l'a vu nous à Paris il n'y a pas longtemps. Alors ça commence en boxe, ça finit en ventriglisse. Entre temps, il y a du crum, du voguing, même des gestes vidéo, des gestes piqués à Fortnite.
Oui.
Il y a une mini Macarena à un moment.
Tout à fait, c'est pour parler aux autres générations un petit peu, parce que Fortnite, ça ne parle pas à tout le monde.
Ah oui. C'est quoi l'idée de soulèvement?
L'idée, c'est, comme le titre l'indique, d'incarner le corps soulevé et donc de passer par tous les états et toute l'imagerie que tout le monde peut s'inventer sur la question du soulèvement. Donc ça va effectivement d'une danse chargée qui est celle du refus, de la négation, du corps qui peut rejoindre des photographies qu'on peut voir dans les journaux sur le corps en manifestation, le corps en colère, le corps revendicatif. Et puis ensuite ça progresse vers l'idée de qu'est-ce que la danse peut proposer comme forme de résistance, en quoi c'est une forme de résistance d'être dans son corps, par exemple. Le corps est-il une forme de résistance? Voilà, être en empathie avec le public notamment.
Et là, c'est vrai qu'on est vraiment dans votre spectacle, même si on n'ose pas se lever, mais on y est presque. Il y a aussi une BO qui donne envie de se soulever, puisque vous êtes allé dans des manifs, enregistrer des bruits de manifs pour danser dessus.
Alors, on n'est pas allé dans des manifs. Donc, la BO, c'est Gaspard Gilbert qui l'a faite. Et on a travaillé avec une documentaliste qui s'appelle Catherine Givora. Et on a rassemblé des sons de manifestation, mais vraiment des archives. Donc, ça va de mai 68, Occupy Wall Street, à Nuit Debout, Radio Debout. On a vraiment une multitude d'archives avec l'idée comme ça d'incarner une foule de manifestations et de quoi on hérite, nous, en 2020. Avec un corps qui du coup est chargé de tous ces débats, toutes ces avancées sociales ou non avancées.
Les manifs se dansent, là on va danser sur Patti Smith qui est aussi dans votre solo soulèvement.
Oui, c'est ce qui finit le solo, ouais.
Alors je vous laisse, vous êtes aux ordres de cette émission maintenant. On peut lancer Patti Smith et on fait ce que vous nous dites, Tatiana Julien.
OK, alors juste pour commencer, on va tranquillement respirer, fermer les yeux. Ouvrir les pores de la peau, ouvrir les mains, pouvoir tanguer de droite à gauche dans le corps, laisser libérer comme ça, on n'a plus de muscles, on a juste de la peau et on sent l'air qui caresse la peau. On peut imaginer qu'on est nu, sur une plage par exemple, que le soleil vient frapper contre la peau, enveloppé. Donc on est enveloppé, on peut commencer par bouger le bassin, on bouge toutes les articulations comme si on était de l'eau, de l'air, traversé par l'air, lâcher la mâchoire, la bouche, les yeux, le regard. On sent le poids du corps, on laisse aller, on abandonne le corps dans l'arrière, dans l'avant. Et puis on vient prendre des bonnes inspirations et ça vient soulever un petit peu le bas des pieds. C'est presque une forme de sautiller, petit sautiller de droite à gauche. Voilà, ça soulève le corps, la poitrine. Et puis on peut venir plus concrètement vers une espèce de pas de base qui serait celui d'une triplette. Donc on fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Mais on garde l'idée d'être un corps enveloppé par l'air. On ouvre le regard vers le ciel, vers le sol, vers la main. On essaye comme ça de voyager dans l'espace avec le regard. Donc voilà, on écoute la musique Et on se rend bien compte que là, le sujet, c'est d'imaginer que tout autour vient traverser le corps et une sorte de remettre du sacré dans tout ce qui nous entoure. Donc on va juste commencer par imaginer que le nez est sacré. On touche le nez, on touche la bouche, la langue, on touche le sexe, les seins, les fesses, les coudes. On remercie son corps d'être comme il est. On touche toutes les parties du corps, l'arrière, les cuisses, les genoux, les pieds, le sol,
la table,
le ciel. Touche le ciel avec les mains, touche tes yeux. Voilà, et alors on continue comme ça avec l'idée maintenant de toucher avec les coudes. Touche les coudes touchent le sol, les coudes touchent le ventre, le ciel, l'arrière, côté gauche, côté droit. Et puis maintenant la même chose, c'est les genoux. C'est les genoux qui vont toucher le ciel, le sol, l'arrière, se touchent entre eux. Alors on varie maintenant, genoux, coudes, mains, bouche, langue, avec tout le vocabulaire. Et l'idée de soulever comme ça, d'être dans une... le corps traversé de toutes parts. On remercie. On remercie le corps, le sexe, l'anus. On peut tourner sur soi, être enveloppé par l'air, on est toujours nu. On peut s'étaler au sol. Voilà, roule au sol, étale-toi et viens trouver une petite fin. Respire et tu vas remercier pour toute la journée l'espace qui t'entoure.
Merci beaucoup, Tatiana Julien. Queenie est au sol et Queenie vient d'être sacrée.
J'ai sacré le sol.
C'est magnifique.
C'est magnifique.
Ce morceau de Patti Smith, il s'appelle Spell, pour tous ceux qui veulent le retrouver. Et vous êtes tombé dessus comment et pourquoi vous avez voulu le mettre dans votre spectacle?
Parce que c'est tiré d'un poème d'Allen Ginsberg, donc ce poème de la Beat Generation, et donc qui a vraiment une forme de protestation en reparlant un petit peu du corps comme quelque chose de sacré, de remettre une sorte d'horizontale et de redescendre d'une verticalité pour aller vers le corps brut et de revenir dans aucun sujet tabou, la sexualité au sens vraiment naturel, quoi.
Il y a tout votre corps dans le spectacle Soulèvement qu'on peut donc voir puisque vous êtes en tournée. Là, il y a plein de dates. Alors vraiment, allez voir Soulèvement de Tatiana Julien, chers auditeurs. Vous êtes à Toulouse à la fin du mois. Vous passez à Bruxelles aussi. Puis en mars, vous serez à Valenciennes, à Marseille et à Roubaix.
Oui.
Voilà, comme ça, on peut vous voir vous soulever. Merci beaucoup pour ce moment sacré.
Merci.
Ça va,
Queenie ?
Je suis hyper sacrée, là. Je redescends pas.
Voici maintenant un classique de cette émission, c'est le Marie Transport. Toujours cette semaine avec le génial auteur de BD Manu Larsenet, qui sort donc son dernier bouquin. Il est drôle et c'est une thérapie de groupe.
Et B.
On écoute ce que ça donne.
Vous allez où ?
Service d'accompagnement de personnalité au travail.
Je peux m'asseoir à côté de vous ?
Marie Transport, épisode 3.
On est rue Ferdinand Duval.
Exactement.
Toujours avec Manu Larsenet.
La Seine, conseiller municipal. Et voilà. Il y a une rue des Juifs, mais j'ai pas compris pourquoi. Ça doit être un truc antisémite, laisse tomber.
Je pense que c'est l'ancien nom de la rue.
Tu vois, c'est rue des Juifs, mais il y a un camion de Juifs.
Il y a beaucoup de choses qui vont sortir de cette interview. Oui, c'est écrit en hébreu derrière pour vous donner une idée.
Excuse-moi. Non, c'est vrai qu'on dit pas un camion de Juifs. C'est pas joli, mais il y a des trucs écrits en hébreu dessus. Donc je me dis.
Oui, probablement.
En parlant de on ne peut plus rien dire.
Ah.
Aujourd'hui, on est le lendemain de l'anniversaire de...
Le mortiversaire.
Le mortiversaire, voilà, de Charlie Hebdo. Toi, t'étais assez proche de Cabu.
Pas assez proche, je l'adorais. C'était mon maître, en fait. Je l'avais rencontré que deux ou trois fois, juste avant, en fait, les attentats. Et puis, c'était un type que j'imaginais un peu hautain, peut-être, un peu, tu vois. Et en fait, c'était un type génial, quoi. Adorable, il m'a emmené en son atelier. J'étais comme un môme. Pendant des heures et des heures dans son atelier, il me parlait de ce qu'il avait influencé lui. Et moi, je lui disais que dans Recréa 2, c'est lui qui m'avait influencé. Il me disait... Ah,
dans Recréa 2 ?
Ouais, on le voyait dessiner. Et moi, j'étais tout petit et je comprenais vaguement qu'il arrivait à s'exprimer sans mots. Avec juste ses traits, parce qu'il était très timide, tu sais, il parlait pas, il avait pas de micro et tout. Et je me disais, mais alors on peut parler sans parler, en fait.
On n'est pas obligé de parler.
Ouais,
c'était un truc rassurant.
Ben, c'était pour moi une échappatoire. C'est-à-dire, comme j'arrivais pas à avoir des contacts avec les gens, le dessin a permis d'avoir contact. Après, j'étais une star au collège, je pouvais dessiner sur les cartables. Tu sais, c'était l'époque où on dessinait sur les cartables, donc j'avais un succès.
Au Tipex ?
Non, c'était au feutre à l'époque, il n'y avait pas encore de Tipex. Donc j'avais trouvé, tu vois, c'est marrant, hein. une manière de m'intégrer grâce au dessin déjà tout petit, quoi.
Pour rendre les contacts avec les autres plus faciles, quoi.
Ben, on m'aimait bien, les gens m'aimaient bien, quoi, parce que je dessinais sur leur cartable, donc ils m'aimaient bien. C'est là où j'ai un peu pigé, quoi. Avec le dessin, on pouvait communiquer, quoi.
Donc pour revenir à Thérapie de groupe, alors qu'on dépasse l'hôtel de ville.
Ah, c'est un hôtel de ville, ça. C'est énorme. C'est un château de ville, hein, plutôt. je connais très mal Paris. J'ai vécu, tu sais, en banlieue parisienne.
Quand t'es parti de Vélizy, t'es allé directement dans le Beaujolais.
Ouais. J'ai rejoint ma femme là-bas qui elle bossait.
On découvre ensemble l'hôtel de ville.
Je vais me faire un petit tour, s'il te plaît, de la capitale. Hein.
Là, c'est les quais sont pas très loin. T'as la Seine là-bas.
Des quais.
Il reste moins de quais pour les voitures, plus de quais pour les piétons. Ça rend pas tous les chauffeurs de taxi très heureux, hein, monsieur. Je sais pas pour vous, mais.
Regarde, un sac de médicaments pour pouvoir supporter les bouchons.
Ah ouais.
Donc ça s'arrange pas, quoi.
Ça va pas très bien.
C'est pas une bonne journée pour vous, monsieur. Je suis désolé, mais là, ça.
C'est tous les jours comme ça, monsieur.
Ah, vous avez que des mauvaises journées.
C'est toute l'année, tous les jours comme ça.
D'accord.
Marie Transport.
La suite au prochain épisode, demain. Comme une série, quoi.
La chronique cinéma.
Alors, Baptiste Etchegaray, vous avez décidé de nous parler de 1917. On voit des affiches partout. Ce film de Sam Mendes qui réinvente carrément le film de guerre et qui explose tout au box-office américain depuis ce week-end.
Oui, c'est le film qui vient de remporter le Golden Globe du meilleur film dramatique. C'est l'un des grands favoris des Oscars avec Joker et le film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Alors, Tarantino, lui, il est obsédé par l'année 69, qui est celle de l'assassinat de l'actrice Sharon Tate. Sam Mendes, lui, est obsédé par 1917, en pleine Première Guerre mondiale, guerre pour laquelle son grand-père a combattu, il y a survécu, il y a vu beaucoup d'horreurs, et il a raconté beaucoup d'histoires à son petit-fils qui avait à cœur depuis longtemps de porter à l'écran un récit inspiré de l'histoire de son grand-père. Alors, pour rappel, Sam Mendes est le réalisateur notamment d'American Beauty, il y a 20 ans, et de Skyfall, l'un des meilleurs James Bond, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est aussi un grand metteur en scène de théâtre, et quand il s'attaque au film de guerre, il le fait avec l'intention d'en réinventer la forme, la temporalité, l'expérience pour le spectateur, et donc, il a choisi Sam Mendes de faire un film sous la forme d'un plan-séquence. On va suivre à la cheville pendant 2 heures deux jeunes soldats anglais qu'on envoie derrière les lignes ennemies porter un message susceptible de sauver 1600 vies. Bande-annonce.
You have a brother in the 2nd battalion.
Yes, sir. Is he
alive? And with your help, I'd like to keep it that way. But they're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you don't, we will lose 1600 men, your brother among them.
Ah oui, en plus il y a le frère dedans.
Oui.
C'est vraiment un plan séquence de 2 heures, ce film ?
Alors, en fait, non. Le film donne l'illusion d'un plan séquence, mais c'en est pas un, et c'est complètement assumé, hein. Il n'y a aucune tromperie sur la marchandise. D'ailleurs, le film dure 2 heures, alors que l'action du film s'étale sur 24 heures. On voit la nuit tomber, le jour se lever, tout ça dans le même film de 2 heures, donc c'est évidemment pas un plan séquence, aucune arnaque, mais aucune couture visible, aucune coupure, aucun champ contre champ. On a vraiment la sensation de suivre non-stop ces deux jeunes soldats qui partent d'une tranchée pour en rejoindre une autre quelques kilomètres plus loin. Et là, on est suspendu à eux, à leur respiration, à leur mouvement. Ils vont traverser des no man's land, des paysages lunaires, un village en feu, une rivière. La caméra semble ne jamais s'arrêter. C'est évidemment d'abord une immense prouesse technique, sidérante, une immersion presque comme dans un jeu vidéo en 3D. Mais c'est pas juste un exercice de style, c'est d'abord une technique de narration pour mieux nous faire ressentir les émotions des personnages, le temps qui passe. Et d'ailleurs, c'est un film de guerre presque sans coup de canon. Non, très peu, sans réelle bataille, sans les scènes habituelles avec des centaines de figurants à l'écran. C'est un film de guerre qui n'en est pas un. En fait, c'est plutôt un survival, un film de survie, sur deux types qu'on envoie au casse-pipe. Ils ont une mission impossible, un parcours semé d'embûches, et tout l'enjeu sera de rester vivant. Alors, le film a un monteur, ce qui prouve bien que c'est pas un plan séquence, et ce monteur, c'est celui qui avait fait le montage de Dunkerque de Christopher Nolan.
Le pouvoir des soldats.
Oui, alors un autre réalisateur anglais qui lui aussi, à sa façon, avait réinventé le film de guerre, sauf que c'était exactement le contraire. Si vous vous en souvenez, Dunkerque superposait 3 temporalités. Le film faisait éclater le récit en 3 histoires parallèles qui se déroulaient sur 3 temporalités différentes. Ici, 1917 fait le pari exactement inverse, le pari du temps réel, linéaire. Un pari illusoire, certes, mais cinématographiquement, c'est un défi largement relevé, de mon point de vue.
La Première Guerre mondiale, donc en temps réel, c'est 1917 de Sam Mendes depuis ce matin sur les écrans. Il est 9h10, nous avons pour le quiz de cette émission Salim au téléphone. Bonjour Salim.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va et vous?
Bah, félicitations d'avoir réussi à nous faire décrocher le téléphone. C'est sur vous que ça tombe ce matin. C'est à vous de battre le record du quiz qui est à 13. C'est pas mal. Mais vous allez
très bien, allons-y, on va essayer.
Vous vous entraînez ou pas chez vous, Salim?
Non, j'écoute tous les matins, mais je m'entraîne pas plus que ça.
Vous l'avez jamais fait dans votre tête? Ok, donc on est sur quelqu'un de vierge, vierge de tout quiz. Mmh. Très bien.
C'est ça.
Et bah, ça se trouve, ça va marcher, la chance du débutant. Salim, 45 secondes. Tout commence par pro ce matin, comme Prodigy, Pascal Pro, produit d'entretien.
Ok.
Ça vous va?
Ça me va.
Salim est pro. C'est parti. Alors, c'est le contraire d'amateur.
Oh.
C'est le contraire de élève.
Professeur.
C'est l'inverse d'une solution.
L'inverse d'une solution. Problème.
Ouais, ok, c'est pas sale.
Propre.
Luther, il était quoi?
Luther.
Vous pouvez je passer, passe. Hein. Complétez ouais. cette phrase d'Emmanuel Macron. C'est notre...
C'est notre...
Ça commence par pro. Ok, c'est pas les neutrons, c'est pas les électrons, c'est les...
Protons.
Comment?
C'est pas les neutrons, c'est les... Répétez, s'il vous plaît.
C'est les pro... C'était les protons, et vous avez dit protons à 1 R près,
ouais.
On avait une réponse.
Ouais.
C'est des trucs dans les atomes, ce me semble-t-il, mais j'irai pas plus loin dans l'explication des protons.
Exactement. On va passer à la correction. Alors...
Salim, attendez, je voudrais quand même savoir comment ça fait un premier quiz, Salim. Comment vous sentez?
C'est dur en fait, à la radio c'est plus facile quand on est.
Et ouais, c'est ce que je voulais vous entendre dire, Salim. Ça s'appelle le track. Alors la correction, Kouni.
Alors Luther, il était protestant.
Vous savez, c'est les contraires des catholiques là.
C'est notre projet.
Vous écoutez pas assez Emmanuel Macron.
Macron et moi, c'est pas ça.
C'est vrai,
ça
mais je l'avais senti, je sais pas pourquoi.
Vous avez fait 4 points, Salim.
Bravo.
On fait comme on peut. Ah, c'est moche.
Quoi, c'est moche?
C'est moche, comment
ça? 4 points, c'est moche.
Macron, ah, 4 points? Non.
Non, pas Macron, je ne me permettrai pas.
Non, c'est presque les doigts d'une main, ouais. Salim. À qui on dédicace ce petit appel du lundi? Est-ce que vous avez une pensée?
Ah, pour vous-même, c'est pour vous-même.
Oh, on le prend, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, Salim, bonne journée.
Je vous en prie, merci vous aussi.
Salut.
Au revoir.
Salut. Nova.